Donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va commencer notre développement concernant Pessah. Vous savez qu'il y a une règle d'étudier les notions d'une fête 30 jours avant la fête. Okay? Ça veut dire que le jour de Pourim, il faut déjà parler de Pessah. Donc hier, il fallait parler de Pessah. Et avant-hier, pour ceux qui faisaient Pourim Razim. En tout état de cause, de fait, nous développons aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, notre sujet principal de Pessah, qui est la Galoute et la Geoula. C'est-à-dire, avant qu'on rentre dans le texte, il faut comprendre que l'essence de Pessah, c'est la rencontre avec notre essence première. La rencontre avec notre identité, le retour vers soi, la prise de conscience de mon identité, de qui je suis, pour pouvoir jouer mon rôle dans le monde. Ça, c'est, d'une manière générale, tout ce qui concerne Pessah. Autrement dit, si après Pessah, il ne s'est rien passé dans mon être intérieur et au niveau collectif, c'est comme si la fête m'était passée par-dessus la tête, j'ai fait des actes, j'ai mangé des matzot, j'ai bu du vin, j'ai rencontré ma famille, on a lu la Haggadah, mais on n'a pas réellement compris le sens profond, essentiel de cette fête. Ce que je vous propose donc, c'est une prise de conscience d'abord de ce que représente la fête avant de rentrer dans les détails de la fête. Il faut comprendre que le mot Mitzrayim, qui est en fait un nom de code, est composé des lettres Meitzar Mi, la prison de Mi. Mi, deux lettres en hébreu, même Yud. C'est mon identité, c'est qui je suis, le qui. La prison du qui, pas la prison du quoi. La prison de ce que je suis avant de comprendre ce que je fais. Or, le mot « mi », qui veut dire « qui » comme je viens de l'expliquer, est en valeur numérique 50, même étant 40, yud étant 10, mi égale 50. Ça veut dire que j'ai un certain degré de l'ordre du 50 qui est en prison, qui est étouffé, qui n'est pas sorti, qui ne s'est pas révélé. Ça veut dire que mon identité profonde s'appelle 50. Encore un nom de code. Tout est codifié. Maintenant, je vais transformer ces deux lettres, Mem et Yud, en une seule lettre. Nun. Au lieu de 40 plus 10... j'ai pris la lettre qui correspond au chiffre 50. Noun. Ça veut dire que le Noun, c'est en réalité le secret de mon identité la plus profonde. Et si je comprends ce secret, je dévoile ce Noun et je lui donne une direction. Comment est-ce qu'on donne une direction à quelque chose en hébreu? Shama. Là-bas. Vers là-bas, va vers là-bas, Shama. Donne une direction à ton Nun, ça devient Nun Shama. Les lettres, Neshama. Neshama, qui n'est pas seulement la traduction de l'âme, mais Nun Shama. Là-bas, sache que se cache un Nun. Dans la Neshama se cache le chiffre 50. La Neshama est de l'ordre du 50. Au-delà de la nature de ce monde. La nature de ce monde étant le 7. 7 fois 7, c'est toujours la nature. 49, c'est toujours la nature. Un degré de plus, c'est le surnaturel, l'au-delà, notre neshama. Autrement dit, j'ai un corps qui est 49 et une neshama qui est 50. Ou bien, dans les unités, un corps qui est 7 et une neshama qui est 8. C'est la même chose, d'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois que je veux savoir qui je suis, je ne peux pas rester dans le 7. Le 7 ne me dit pas, ne me révèle pas mon identité. Il faut que j'aille à la source. Donc il n'y a que dans le 8 que je peux intégrer mon être intérieur. Il n'y a que dans le 50 que je peux savoir qui je suis. Et donc, la lettre Noun, okay, le 8 c'est le surnaturel, au-dessus du 7. Non, 49, 50. 7, 8, c'est la même chose. 8, c'est 50. 7, c'est 49. Dans les unités, 8, c'est 50. Eh oui. 7 fois 7, c'est toujours 7. Donc c'est 49. Donc le chiffre au-dessus, c'est 50. Mais au niveau des unités, 7, c'est 7. Donc au-dessus, c'est 8. Comment tu dis 8 en hébreu? Shmoné, c'est les mêmes lettres que Neshama. Tu es d'accord? Exactement les mêmes lettres. Il n'y a rien à rajouter ni à enlever. Il n'y a pas de vav dans le chiffre shmoné. C'est les mêmes lettres que Neshama. Ça veut dire que dès que tu parles du 8, tu parles de l'âme. Ça veut dire que ton identité, elle est de l'ordre du 8. Quand est-ce que tu donnes un nom à ton bébé? Le 8e jour. Pourquoi? Tu vas me dire parce que c'est la brite. Oui, mais pourquoi la brite est à 8 jours? Bien. Justement parce que c'est le jour où tu prends contact avec l'au-delà. Et que tu fais comprendre à ce bébé qui vient de naître, il y a 8 jours, que son lien est un lien avec l'infini. Qu'il vient de l'au-delà. Il n'est pas un enfant naturel qui reste dans sa nature et qui est ficelé dans sa nature, enveloppé dans cette nature et emprisonné dans cette nature. Il vient de l'au-delà. Donc tu lui ouvres le lien avec l'au-delà, la Brit Mila, le 8e jour. C'est ce jour-là où tu lui donnes le nom. Car le nom vient de là-bas. Noun, Shem. Neshama. Dans le mot Neshama, il y a le mot Shem. Donc ton nom, c'est le nom de ton âme. Donc ton nom, c'est le nom qui vient du chiffre 50. C'est-à-dire que ton identité, c'est d'abord ton nom. Le nom reflète l'identité profonde. Étudier la Torah, c'est étudier les noms. La même chose, toute la Torah tout entière, ce sont les noms d'Akadosh Baruch Hu. Kol la Torah kula shmotav shel Akadosh Baruch Hu. Donc si tu sais les noms, tu étudies les noms, ben, tu te connectes avec l'éternité. Comme il est dit dans Tehilim, Asagevehu ki ada shemi. Qui est à un niveau d'élévation, quiconque connaît mon nom. Ikraeni, celui-ci qui étudie mes noms, quand il m'appelle, je lui réponds. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu répond à ceux qui connaissent et qui étudient ces noms. Donc étudier la Torah, c'est étudier ces noms. Donc le nom de la personne, exactement comme le nom d'un message ou d'un degré quelconque, c'est sa définition. C'est la prise de conscience de cette chose-là. Comme le livre de Shemot. Okay? Où justement là-bas, il est écrit que nous sommes en train de descendre en Égypte à chaque instant. Ve'ele Shemot Bene Israël Habaim Mitzraïma. Qui peut me traduire cette phrase, ce verset? Et voici les noms des enfants d'Israël qui viennent vers l'Égypte. Mitzraïma, c'est une direction. C'est pas les Mitzraïm, c'est Mitzraïma. Autrement dit, qui vient d'une manière continuelle en Égypte? Non. Les noms. Il n'y a pas marqué voici les enfants d'Israël, il y a marqué voici les noms des enfants d'Israël qui viennent continuellement dans un degré qui s'appelle Égypte, code prison. Autrement dit, nous sommes constamment dans le même circuit d'emprisonnement où les noms qui nous représentent sont sans arrêt en train de descendre vers une prison qui s'appelle Égypte. Et donc il y a un danger pour les noms. Donc qui il faut délivrer d'Égypte? Les noms. Alors une personne qui descend en Égypte, ça je comprends. Mais un nom qui vient en Égypte. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer ce que ça veut dire les noms qui viennent en Égypte? Je ne fais que traduire le verset. Dans vos traductions, dans des livres que vous lisez en français, il y a marqué « Voici les enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte ». Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce sont les noms des enfants qui sont descendus en Égypte. Et plus exactement, qui descendent au présent. Ça veut dire que je suis soumis à cette même catastrophe à chaque instant. Je risque à chaque instant que le nom descende, puisque c'est au présent, encore en Égypte. Pouvez-vous m'expliquer ce que veut dire un nom qui est en train de descendre maintenant en Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que ton identité, à chaque instant, elle est en danger de descendre vers un degré qui s'appelle Égypte. Et donc à chaque instant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout simplement revenir, tu as raison, une forme de teshuva, de retour pour prendre conscience de ton identité, ne pas la laisser tomber dans cet emprisonnement. Ok? Alors, comment est-ce qu'on peut emprisonner un nom? Qu'est-ce que ça veut dire l'emprisonner? Ne pas lui laisser être lui-même. D'accord? Lui enlever sa spécificité, sa nature profonde, la vraie. Imagine-toi que tu ne vis pas la vie que tu dois vivre. Et tu es en prison, dans une vie étrangère à ta propre vie, à ta vraie vie. Vous êtes d'accord? Il y a ici donc un secret, c'est que la sortie d'Égypte n'était pas une fois dans l'histoire, mais elle se renouvelle à chaque instant. Alors pourquoi je fête Pessah à Pessah? Il n'y a qu'à fêter Pessah tous les jours. Mais c'est vrai, tous les jours, je dois rappeler deux fois par jour que je suis sorti d'Égypte. Tout le temps, je suis en train de dire « Zecher l'Itziat Mitzrayim »« Zecher l'Itziat Mitzrayim »« Zecher l'Itziat Mitzrayim » Tu fais un kiddush, Shabbat, n'importe quoi, une fête, n'importe quelle fête. À Rosh Hashanah, « Zecher l'Itziat Mitzrayim ». Pourquoi? En souvenir de la sortie d'Égypte. Parce que si tu rates une fois ce souvenir-là, si tu l'oublies, tu retombes en Égypte au moment où tu as oublié. Ça veut dire que la sortie d'Égypte est continuelle. Mais il y a quand même un mois dans l'année où cette capacité de sortir d'Égypte est beaucoup plus en relief. C'est le mois de Nissan. Donc la sortie d'Égypte, qu'un jour dans l'histoire on a utilisé pour nous libérer, en réalité, elle a ouvert la porte, cette sortie d'Égypte, à toutes les libérations possibles et imaginables dans notre être, dans notre psycho, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre travail, dans notre vie d'une manière générale. Je résume, la sortie d'Égypte est un code qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, il a appelé Yetziat Mitzrayim, c'est un code cosmique qui veut dire sors de tout ce qui ne te permet pas de vivre selon ce que tu es. Arrête de te mentir, en d'autres termes. Arrête de tricher. Et le fait que le peuple d'Israël, un jour dans l'histoire, effectivement, a pu sortir d'Égypte, ça a ouvert la porte à toutes les sorties possibles et imaginables. Il y a une expression en hébreu, si on est sorti d'Égypte, on pourra sortir de n'importe quelle situation. Hein? C'est-à-dire, on a dépassé le pharaon, on pourra dépasser ce problème aussi qui, peu importe. Avarnu et paro, na'avor gametze. C'est une expression en hébreu moderne. Si un jour on a pu dépasser le pharaon, avec l'emprisonnement, la prison qui nous empêchait de bouger, eh bien on peut tout dépasser dans notre vie. Il n'y a rien qui peut te bloquer réellement dans ta vie. Tu peux toujours sortir. Et non seulement toi, Israël, mais ça a ouvert la porte à toutes les nations du monde qui, un jour, lorsqu'elles sortiront elles-mêmes de leur propre prison, de l'identité, qu'elles se retrouveront elles-mêmes. Mais c'est grâce à cette sortie d'Israël qui est sortie un jour d'Égypte. Et donc, notre premier printemps de l'histoire, c'est le printemps d'Israël, que les nations du monde essayent d'imiter en créant des printemps arabes et des printemps russes et des printemps ce que tu veux. Pas par hasard qu'on les appelle comme ça. Qui a inventé les printemps arabes? Vous connaissez ces expressions maintenant qui viennent de naître il y a quelques années, le printemps arabe. D'où c'est sorti ça? Qu'est-ce que c'est le printemps? C'est aller vers la lumière, aller vers l'été, aller vers la floraison. Mais d'où c'est sorti? D'où ça a commencé? Du printemps, du premier printemps de l'histoire. Chag Ha'aviv, la fête du printemps, qui est en réalité la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël fait très attention de toujours fêter Pessah au printemps. C'est pour ça qu'on fait le lien entre le soleil et la lune pour que les fêtes tombent dans les périodes qui correspondent à leur nature profonde. Je ne peux pas fêter Pessah en hiver, ça ne veut rien dire. Pessah est obligé d'être lié au printemps parce qu'elle représente la matrice de toutes les délivrances. Le mot « aviv » qui veut dire « printemps » en hébreu se compose en « av » Yudbet, le papa des 12, c'est-à-dire le papa des 12 mois de l'année. Donc « Chodesh ha-aviv », c'est le mois qui est le papa des 12 mois. Autrement dit, si tu gères bien le papa, ce qui va naître de lui va avoir la même tendance, la même couleur, le même son, la même valeur, la même mélodie, la même musique. Autrement dit, tu dois travailler ton papa. Qu'est-ce que ça veut dire travailler ton papa? Pas le papa qui t'a donné la vie. Ton propre papa, toi, ça veut dire chacun de nous. Où se trouve le papa dans notre être? Il se dévoile dans notre neshama, qui se dévoile dans le cerveau droit. C'est là où on appelle papa. Ça veut dire que je dois travailler sur mon cerveau droit. Vous savez qu'on a deux cerveaux, un cerveau droit, un cerveau gauche, et un troisième cerveau qui s'appelle le cervelet, qui va donner en réalité tout la force du cerveau droit et du cerveau gauche par la colonne vertébrale, par les nerfs, à tous les différents membres du corps. Eh bien, le mois de Nissan représente la libération du cerveau droit. Avec des mots simples, ça veut dire que si je travaille réellement à me libérer pendant le mois de Nissan, je peux libérer en réalité le père, donc je dirais la matrice, ou le patriarche, parce qu'il n'y a pas le mot patrice en français, mais en réalité c'est Abba, pas Ima. Ima c'est matrice, matrice vient du mot maman. Mais là c'est papa. Je libère le papa, c'est-à-dire le père de tous mes maux, M-A-U-X, le père de tous mes problèmes, le père de toutes mes prisons, je peux le libérer. Et si j'ai réussi à libérer le père, tous les fils vont être libérés. Ce n'est pas par hasard qu'entre Pessah et Shavuot, on lit Pirkei Avot. Pirkei Avot, les maximes des pères, des papas. C'est-à-dire que tu dois travailler pendant cette période-là sur ton cerveau droit. J'ai expliqué d'une manière assez rapide qu'il faut travailler en réalité sur ton cerveau, qui est un cerveau en réalité qui voit les choses d'une manière complète, unitaire, qui n'est pas dans les détails des choses. Et là, je rentre un tout petit peu dans le circuit, dans le sens profond de la sortie d'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas seulement une terre. Vous êtes en train de comprendre. Ce n'est pas seulement un lieu géographique qui s'appelle l'Égypte, une frontière avec la terre d'Israël. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le jour de Pessah. Le jour de Pessah, on doit s'intéresser à la valeur intérieure de ce code qui s'appelle Égypte. C'est un état de conscience, un emprisonnement de soi. Un étouffement qui t'empêche de vivre ta vraie vie. Comment est-ce qu'il agit, ce degré emprisonnant? Eh bien, il te fait voir la vie comme un ensemble de détails. Toute ta vie devient des milliers de puzzles éparpillés, des milliers de lettres éparpillées sur une feuille blanche, sans que tu saches le fond du message. Imaginez-vous maintenant que vous voyez cette feuille-là, que je vous ai écrite, comme des lettres. Quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, il regarde toutes ces lettres, il devient fou, n'est-ce pas ? Il va dire c'est de l'hébreu pour moi. Non, on dit c'est de l'hébreu pour moi, même en France. Quand tu comprends rien, tu dis c'est de l'hébreu pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il voit des lettres, mais il ne sait pas le sens du lien qui coud les lettres entre elles, qui en fait des mots. Les mots font des phrases, les phrases ont un sens, et tout le cours devient avec un sens. Mais c'est la même chose. L'Égypte va découper ta conscience en pièces détachées. Elle ne va pas te permettre de voir une image globale. Elle va te faire peur dans un tourbillon de détails. Ça veut dire que la force ici, c'est une force négative qui va venir te faire peur, t'emprisonner dans les détails. Je vais vous donner un exemple bien précis. Il va y avoir un petit détail qui va t'embêter, par exemple, ce matin. Mais à cause de ce petit détail, tu ne vas plus rien faire. Parce que ce détail t'a gâché l'image globale de la matinée. Ça, c'est parce que tu ne sais pas vivre réellement dans l'entité. Et ce détail maintenant qui t'a embêté, tu en as fait le tout. Tu l'as tellement gonflé que tu ne vois plus que ce détail-là. Donc il t'a gâché la vue du global. Donc tu es tombé dans la force du détail. D'accord ? En hébreu, chet ha-pratiut. Tu es tombé dans l'individualité, dans l'individualisme. Tu as fait de ton problème une caricature énorme, alors que c'était un tout petit degré que tu devais mettre dans l'ensemble pour voir qu'il n'est pas grand-chose. Il faut juste le gérer. Toi, c'est devenu pour toi quelque chose d'énorme qui t'a gâché en réalité toute la journée, peut-être, je ne sais pas moi, toute la semaine. Chas v'shalom. Tu ne sais pas vivre en mettant les choses à leur place. Donc tu as sorti tous les trucs de leur proportion, tu es tombé dans cette panique qu'on appelle Mitzrayim. Ken ?
C'est pas une recherche de la perfection ?
C'est une recherche de la perfection de quoi ? De voir le détail ?
Non.
De quoi ? De voir le tout.
Ken.
Ça peut venir aussi d'une recherche de perfection où, lorsque tu vois un petit détail qui ne marche pas, ça t'a gâché le tout. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit être. La vie n'est pas comme ça. Tu ne peux pas, à chaque fois que quelque chose ne marche pas bien dans le tout, jeter le tout. Tu dois régler le petit problème en question. Et comment est-ce que tu le règles ? En le remettant à sa place dans ce tout. Et là, il reprend sa place. D'accord ? Comme un puzzle qui est sorti, tu as fini le puzzle, tu as 3000 pièces, il te manque une pièce et tu sors, tu es énervé, tu casses tout. Mais c'est la même chose. On te dit, mais mets-la, à la place. Non, elle me manque. C'est une pièce qui me manque, je ne vois plus que ça, ça m'a gâché tout mon puzzle et je le casse. Ça vous fait rire. Mais en réalité, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui vivent comme ça. Donc c'est ou tout, ou rien, ou blanc, ou noir. Ça c'est infantile. Ça veut dire que tu es dans un degré qui n'est pas normal. La vie c'est pas du blanc et du noir. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de nuances au milieu. La vie c'est un développement, c'est une structure. Et il faut avoir la patience de développer les choses en sachant qu'il y a aussi des chutes en route. Sheva ipol tzadik vekam. Le tzadik tombe 7 fois. Maintenant, vous comprenez ce que c'est 7. Dans le monde naturel, on n'arrête pas de tomber. Donc, ce n'est pas qu'il tombe 7 fois seulement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut tomber 1 million de fois. Ça s'appelle 7. Le monde naturel est voué à la chute. Vekam. Mais il a la possibilité de se lever. Grâce à quoi ? Grâce au 8. Parce qu'à chaque fois qu'il est dans le 7, il voit l'au-delà, il voit le 8, ça lui donne la force du demain, du lendemain, de continuer. Si tu tombes dans le piège du 7 x 7, tu es dans les 49 degrés d'impureté que nous sommes tombés dans ces degrés-là en Égypte. Vous vous rappelez, on dit que les enfants d'Israël sont tombés en Égypte à 49 degrés d'impureté. Quelles sont les lettres de 49 en hébreu? Même tête. Même tête. C'est la racine du mot tamé. Non, pas mort avec un taf, avec un tête. Ça vient du mot metumtam ou atum, bloqué. Hermétique. Il n'y a rien qui te pénètre. Tu es bloqué. Ça donne la naissance au mot tamé, qui veut dire pas impur, mais imperméable. C'est-à-dire, la Kedusha ne te pénètre pas, donc tu es impur. Ça, c'est le même tête. Donc, tu dois sortir, délier ce nœud-là pour sortir d'Égypte. Donc, maintenant, j'espère que vous allez me répondre immédiatement. Grâce à quel chiffre on sort d'Égypte?
50.
50, il y a fait mal. Combien de fois dans toute la Torah est mentionné la sortie d'Égypte? 50 fois. Pas une de plus, ni une de moins. Pourquoi? Il faut sortir, il faut dévoiler le chiffre 50 pour s'en sortir. Ce chiffre 50, il a un nom. On l'appelle Alma de Chirou, dans le Zohar. Le monde de la liberté. Le monde de la libération. D'ailleurs, à quel moment on se libère en étant esclave? La 50e année, quand il y avait des esclaves dans le peuple d'Israël, ils devaient sortir à la 50e année de leur esclavage. Comment est-ce qu'on appelle cette 50e année? Le jubilé. De là est né le mot « je jubile ». Jubilé, en hébreu, « yovel ». Donc le « yovel », c'est la 50e porte. C'est le degré ultime qui nous donne la force de pouvoir nous en sortir dans notre vie. Donc à chaque fois que tu es coincé, que tu es tombé dans le piège du 7 ou du 7 x 7, à chaque fois il faut que tu saches monter au 50. Comme ça nous disent les Chachamim d'une manière codifiée, « Im paga becham menuvalze » si cet embrouilleur t'a touché, le Yetzerara, « Moshrehu » les bêtes à Midrash. Prends-le jusqu'au bêtes à Midrash. C'est-à-dire, si un jour le Yetzerara vous pénètre, tirez-le avec vous au bêtes à Midrash. Donc le bêtes à Midrash, c'est quel chiffre? 50. Et le Yetzerara, il ne peut jouer que dans 7 ou dans 7 x 7. C'est son terrain de jeu. Le 49, c'est le terrain de jeu du Yetzerara et de toutes les forces négatives. Au-dessus de cela, il ne peut rien faire. Donc, si je veux échapper à ce degré-là, je dois lui apporter une lumière de l'ordre du 50. D'accord? Comment est-ce qu'on dit 50 en hébreu? Chamishim, d'accord? Qu'est-ce que vous entendez dans le mot chamishim? Mashiach. D'accord? C'est la même lettre. Mashiach. Simcha, Sameach. Chumash, Chamesh. Chamouche, qu'est-ce que c'est chamouche en hébreu? Armée. Donc, toutes tes armes, et l'arme ultime qui est le messianisme, tu l'as où? Dans le chiffre 50. Donc le Mashiach est de l'ordre du chiffre 50 et au-dessus. Il ne peut pas être moins que ça. D'accord? Il ne peut pas être Mashiach situé du chiffre 49. Ça n'existe pas. Mashiach doit venir de l'au-delà, du chiffre 50. Il doit naître dans ce monde. Mais il a une neshama qui vient de l'au-delà. D'ailleurs, toutes nos neshamot viennent de là-bas. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, neshama, c'est nun shama. Qu'est-ce qui se passe? C'est sonner du chauffard ou quoi? Donc, si un neshama, nun shama, ça veut dire à chaque fois que je tombe dans le piège, entre guillemets, corporel, qui m'étouffe, je dois en fait retisser le lien avec ma neshama. Et si je retisse le lien avec ma neshama, je peux m'en sortir. C'est clair? que veut dire le mot? À quelle lettre correspond donc le chiffre 50? Noun. La mettre c'est 30. Noun. Noun, ça a un sens aussi. Que veut dire le mot noun en araméen? Un poisson. Tamnoun, c'est autre chose. C'est un poulpe. Tamnoun, c'est un poulpe. C'est autre chose. Noun, une pieuvre. Noun, c'est un poisson. Noun, noun, vav, noun. Okay? Comme la lettre noun. Si tu veux la développer, noun, vav, noun, noun. Autrement dit, comment est-ce que je dis okay? Un poisson dans l'eau. Noun, bamay. Noun, bayam. Le Zohar appelle les Talmidei Chachamim Nounei Hayam, les Nouns de la mer, les Nouns de l'océan. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme de le poisson dans l'eau, dans l'océan de la Torah. Donc normalement, si vous développez votre être comme il faut, vous devez arriver, on doit arriver tous à devenir des Nouns de l'océan toranique. Chacun de nous doit devenir un Noun. Chacun de nous est devenu en réalité une force qui va combattre tout le mal. Qui on a pris pour combattre Amalek? Yoshua, fils de Noun. Bizarre, non? Maintenant, vous comprenez pourquoi. Il n'y a qu'un Yoshua qui veut dire délivrance, Yeshua, qui est fils ou fille de Noun, du chiffre 50, qui peut nous délivrer. Donc notre délivrance vient seulement du chiffre 50 et au-dessus. Pas moins que cela. Moins que cela, on est dans le piège du déguisement. Hier, vous étiez à Pourim, il fallait monter au-dessus du déguisement. Ad delo yada. Jusqu'à un degré qui dépasse le da'at. Donc le chiffre 50, c'est le minimum du Olam Abba. Le Olam Abba s'appelle donc 50. Le Olam Hazé s'appelle 49. C'est tout. Donc le Olam Abba, ce n'est pas le monde futur. C'est un monde qui est là. C'est un monde qui vient. En hébreu, traduction Olam Abba, le monde qui vient, au présent. Donc il est seulement une autre hauteur. Si tu vis dans ta vie à 7 fois 7, tu es dans le Olam Hazé. Tu es bloqué dans le Olam Hazé. Si dans ta vie, tu arrives à monter par ton étude, par ta prise de conscience de ce qu'il y a au-dessus, eh bien tu touches le Olam Abba. Moralité, tu peux vivre ton Olam Abba dans le Olam Hazé. C'est ce que tu dois faire. Et il y a une bénédiction de nos sages. Olamcha tir'eh bechayecha. Je te souhaite de voir ce monde-là, ton véritable monde, durant ta vie. Pas après ta mort. Comme tout le monde dit, ouais, quand tu mourras, alors là, on monte vers le... À quoi ça sert? Alors, on se suicide tous, et comme ça, on est tous déjà au chiffre 50. Suicide collectif. Chas v'shalom. Le but de la création du monde, c'est d'amener le 50 dans le 49, dans le 7 x 7. D'amener le 8 dans le 7. De faire une brit mila à un bébé le 8e jour pour justement le marquer du chiffre 8, alors qu'il est un enfant normal de ce monde, du chiffre 7. Donc chacun de nous vient au-delà. Au-delà du fleuve. C'est pour ça qu'on nous appelle des Ivrim. Qu'est-ce que c'est les Hébreux? Mais vers la Nahar, ceux qui sont de l'autre côté du fleuve. C'est quoi le fleuve? C'est le 7 x 7. L'autre côté du fleuve, c'est le chiffre 50. Donc on vient tous, les enfants d'Israël, on vient du chiffre 50. Qui s'appelle d'ailleurs Kissé HaKavod, le trône céleste. De là-bas, nos Neshamot sont venus dans ce monde. Donc le trône céleste, c'est le chiffre 50. C'est de là-bas que nos Neshamot ont été tirés, prises et nous amenés dans notre corps qui, lui, est du chiffre 49. Donc nous avons en réalité dans notre corps et notre Neshama un 50 dans un 49. Un 8 dans un 7. D'accord? Ken, il y avait une question là-bas. Bet Midrash, parce que c'est là où tu étudies la Torah. La Torah, tu l'as reçue quel jour après la sortie d'Égypte? Il a fait. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Le 50e jour. Maintenant, tu comprends pourquoi. Est-ce que tu peux étudier une Torah qui vient du 49? Non, c'est une Torah humaine. Tu tournes autour de ta propre queue. Mais la Torah qui nous vient du chiffre 50, maintenant vous comprenez pourquoi. Parce qu'elle nous vient d'un monde qui est de l'au-delà. Au-delà du fleuve. Donc 50 jours après la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah. Ça veut dire qu'il faut s'éloigner suffisamment de l'Égypte pour recevoir la Torah. Donc il faut s'éloigner suffisamment de la prison de notre identité pour entrevoir notre véritable nature qui est la Torah. Donc moralité, tant que tu ne t'es pas éloigné de l'Égypte suffisamment, tu ne peux rien recevoir de la Torah. Alors combien vous êtes de votre emprisonnement dans votre vie? Voilà la question qu'il faut se poser. Les enfants d'Israël, eux, ils sont sortis d'Égypte. On nous raconte l'histoire. Ils ont marché pendant 49 jours et le 50e jour, ils ont reçu la Torah. Mais toi, moi, où est-ce que je suis? Vous comprenez? Comment tu veux recevoir une Torah qui est de l'ordre du chiffre 50 alors que tu es coincé dans un système 49? Tous les matins, on dit une bracha, Baruch Ata Hashem, Matir Asurim. Qu'est-ce que ça veut dire Matir Asurim? Qui libère les prisonniers, ceux qui sont tenus avec des liens. Mais c'est de ça qu'on parle. Matir Asurim. Si je ne suis pas libéré de mes liens, je ne peux pas recevoir la Torah parce que je ne suis pas encore un homme libre, je suis encore coincé dans un système de manque de liberté. Donc le manque de liberté, c'est 49. La liberté, c'est 50. Et je vous ai dit tout à l'heure, ça s'appelle le monde de la liberté, Alma de Chirou. Pas se libérer de son identité, libérer son identité. D'accord ? Que tant que je suis dans le 49, je n'ai pas encore vu mon identité. J'ai l'impression que c'est la mienne, mais en réalité, je suis un déguisement de quelqu'un d'autre. Je fais un petit peu comme celui-là, je fais un petit peu comme mon rave, je fais un petit peu comme ma rabbanite, je fais un petit peu comme celui-là. Lui, il m'a bien impressionné, alors je fais un petit peu comme lui. Mais je ne suis pas moi-même. Je suis en réalité 15 ou 20 ou 30 ou 49 déguisements de 49 degrés différents. Et toi ? C'est la question qu'Akadosh Baruch Hu pose à Adam Harishon, à Yeka. Quelle est la question? Où en es-tu? Pas où es-tu. Où es-tu? C'est facile, Akadosh Baruch Hu, il sait où tu es. Où en es-tu? C'est toi qui dois savoir. Où est-ce que tu en es dans ta vie? Pas où es-tu, où en es-tu. En d'autres termes, qui es-tu? Est-ce que tu as oublié ton identité pour fauter? Comment est-ce que tu es tombé dans la faute? Ça veut dire qu'en réalité, tu as perdu ton identité. Tu n'es plus toi. Ça veut dire que quand on faute, à chaque instant, au moment où on faute, on n'est pas nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes. Parce que le toi, le vrai, ne peut jamais fauter. C'est vrai. Donc la teshuva, en réalité, elle est liée immédiatement au quel chiffre? 50, c'est tout. La teshuva, c'est le chiffre 50. Si vous deviez donner un chiffre à la teshuva, c'est le 50 ou le 8. D'accord? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et toutes les chataïm, c'est tomber donc dans le 7, en le déconnectant du 8. En tombant dans le 49, en le déconnectant du 50. C'est clair ce que je suis en train de vous dire? Ok. Ok. D'accord. Première question. Dans ta question, tu as déjà posé ta question d'une manière erronée. Alors tu m'as dit, comment ça se fait que le Shabbat, c'est le septième jour? C'est faux, déjà. Le septième jour, c'est le septième jour. Il n'y a pas marqué que le septième jour, c'est Shabbat. Il y a Yom HaShevi'i. C'est encore un chiffre. Shabbat, c'est déjà un nom. Ça veut dire que Shabbat, il a en réalité des chiffres et des lettres. C'est le premier chiffre et lettre de la vie. Il est d'abord un chiffre 7 par rapport aux 6 jours qui lui ont précédé. Mais en réalité, si tu t'arrêtes au chiffre 7, ça veut dire si ton Shabbat c'est le 7e, tu n'es pas encore au Shabbat, tu es au 7e. Shabbat, c'est déjà un nom. Tu es monté à un autre degré. Quel degré? Le 8. C'est-à-dire, le nom Shabbat, c'est plus 7, c'est 8. Alors que le septième jour, c'est le septième jour. Vous comprenez bien? Il y a marqué Yom HaShvi'i, en hébreu, ça c'est Yom HaShvi'i. Shabbat, c'est déjà le 8 qui se cache dans le 7. C'est-à-dire la Neshama qui est dans le 7. Ça, c'est le nom Shabbat. Sinon, c'est un chiffre. La Torah, elle ne te dit pas que Yom HaShvi'i, c'est Shabbat. Le problème, c'est que chez les Français, quand vous faites le Kiddush, vous faites toute cette erreur. Vous dites, Ubayom HaShvi'i, Shabbat, Vaynafash. Ce qui est faux. Il faut dire, Ubayom HaShvi'i, Shabbat, Vaynafash. C'est un verbe. On ne te dit pas que le septième jour, c'est le Shabbat. On te dit que le septième jour, il a chômé. Donc tu ne peux pas dire Shabbat, tu dois dire Shabbat, Vaynafash. Donc regardez vos sidourim, c'est marqué, mais vous ne faites pas attention. Alors tout le monde dit, Ubayom HaShvi'i, Shabbat, Vaynafash. Et tu es en train de faire des fautes. Et tu es en train de boire du vin du septième jour au lieu de boire du vin du huitième. Alors que tu dois consommer le huitième. C'est-à-dire, tout en Shabbat peut être sept. Si tu n'as pas découvert le huit qui se cache à l'intérieur de lui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Shabbat, ça peut être un week-end. C'est la fin du week. Mais ce n'est pas encore Shabbat. Tu vas dormir, tu vas roupiller, tu vas te reposer, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas lire des magazines, tu vas être au lit. Mais ce n'est pas Shabbat, c'est le septième jour. Shabbat n'est pas donné à tout le monde. Shabbat, c'est un degré qu'il faut acquérir, qu'il faut aller un petit peu chercher. Même s'il descend, il vient. Mais il faut que tu te hisses à ce degré-là pour recevoir le 8 qui se cache dans le 7. Justement, en transformant ton Shabbat, en faisant très attention à ne pas parler de chol, à ne pas lire des choses de chol, à ne pas tomber dans la faute du « je ne fais rien, en tout cas je ne fais pas d'erreur », ni de faute Shabbat, c'est pas, ça ne suffit pas ça. Tu dois étudier Shabbat. Et tu dois étudier une Torah profonde, pas une Torah que tu as l'habitude d'étudier pendant la semaine. Une Torah qui va beaucoup plus loin, qui pénètre un petit peu plus dans une recherche profonde de l'étude. Faites très attention à ça. Ken.
C'est pas le même principe avec l'arbre de la vie.
Exactement. Exactement, c'est le même principe. Les 6 jours de la semaine ou les 7 jours, ou 7 fois 7, c'est toujours l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, l'ira. Et l'arbre de la vie, c'est le chiffre 8 ou 50.
Mais c'est le même arbre. En fait.
C'est le même arbre. En fait, l'arbre de la vie se cache à l'intérieur de l'arbre de la connaissance. C'est pas qu'il y avait deux arbres. D'accord? L'arbre de la vie, il est dedans. C'est comme la neshama. C'est comme ton corps et ta neshama. La première chose que je vois, c'est ton corps. Mais si j'apprends à te connaître, je vois ta neshama. C'est tout. Ça veut dire qu'Adam Arishon, en réalité, il s'est adressé à quel degré? Au 49. Il aurait dû manger du 50. C'est tout. Et quelque chose de très grave, Ken. Si ce n'était pas marqué, j'aurais même pas pu le dire moi-même. Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Harizal, nous dit que Adam Arishon, sa faute, c'était de ne pas étudier la Kabbalah. Il a voulu étudier le Pshat sans étudier la Kabbalah. Ça veut dire qu'il a pris les 49 degrés. Donc, toute la Torah du Pshat, c'est 49. Et la Kabbalah, c'est le chiffre 50. Nachon. C'est pour ça que le Etz, c'est le masculin de Etza, un conseil. Il ne s'agit pas de manger des fruits, ni des feuilles, ni de mettre des feuilles de vigne sur la nudité pour la cacher. Ça, c'est bien pour les enfants au GAN, mais il faut dépasser ce degré. Okay? Le niveau du GAN, c'est Ramat GAN. Okay? Il faut monter un petit peu à Yerushalayim. Il faut monter à Yerushalayim dans ta vie. C'est pour ça que quand on sort d'Égypte, on sort pour monter à Yerushalayim. C'est pas que Ramat Gan n'est pas une ville de Kodesh. Attention, elle est en Eretz Israël. C'était juste pour le jeu de mots. Mais quand vous sortez de Mitzrayim, il faut que vous ayez une direction dans la tête. Yerushalayim. Si vous sortez de Mitzrayim sans avoir l'idée d'aller et de ne pas vous endormir en chemin à Yerushalayim, vous retombez à chaque fois et vous dites ce que les enfants ont dit là-bas. Nitena Rosh. On veut repartir en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié l'objectif. Il faut jamais oublier l'objectif. L'objectif, il est de l'ordre du chiffre 50 ou 8. Eretz Israël, donc, c'est quel chiffre? 50. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a marqué Kol ha-me'alech arba amot be'eretz Israël yesh lo chelek la'olam haba. Quand tu marches 4 pas ici, tu marches où en réalité? Dans le chiffre 50, puisque tu es au-delà de la nature. Eretz Israël, ce n'est pas une nature normale. Eretz Israël, einena davar chitzoni. Vous avez étudié Oroth. Premier mot de Oroth. La terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel, d'extérieur. Extérieur égale 7 ou 49. Donc Eretz Israël, c'est de l'ordre du chiffre 8. C'est la neshama de la terre. La neshama du peuple. Ce n'est pas des morceaux de terre. Faire attention, c'est quelque chose d'autre. Tout ce degré-là, c'est juste une petite ouverture pour commencer à comprendre ce que c'est sortir d'Égypte. La prochaine fois, Be'ezrat Hashem, on va rentrer un petit peu plus dans le texte et on va commencer à entendre, préparer vos questions. Aujourd'hui, c'était juste une mise en place, une mise en bouche, okay, de l'histoire de Pessah dans son sens le plus profond, c'est-à-dire la Géoula. Qu'est-ce que je cherche dans cette fête? Et pas plonger directement où est-ce que je vais acheter mes matzot, tout ce que je vais faire, ça c'est bien, tout ça. Mais si tu n'as pas compris le sens, c'est dommage. Ken? Tout à fait. C'est très très important ce que tu dis. Il y a un verset qui le dit d'ailleurs. Et ze le'umadze asa Elohim. Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il y a dans la Kedusha va apparaître de l'autre côté dans la Touma. Et si la force n'est pas ici, elle est là-bas. Et si elle n'est pas là-bas, elle est ici. Kesheze kam ze nofel, kesheze nofel ze kam. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a comme des vases communicants. Et il faut qu'on sache en réalité où est le poids. Donc quand on va mettre le poids sur notre identité, qu'on va atteindre nous-mêmes le chiffre 50, okay, les autres vont redevenir quoi? Mishpechot Adama, des familles. Mais ça, c'est un autre épisode. Toda Rabah.